la première.
Par oui dire ?
Oui.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, tutta vivere per niente.
Dis-moi.
C'est un art.
Par oui dire.
Être modèle pour la personne qui pose nue dans une école d'art. Qu'est-ce que ça implique psychiquement ? C'est cette question que nos deux auteurs abordent ce soir. L'un est en Suisse, l'autre en Algérie. Se mettre à nu sans fard dans la confiance du regard de l'autre, c'est une expérience à la fois singulière et transformatrice. Séam Boutata retrouve une femme qui a posé nue dans les années 70 à Alger, aux Beaux-Arts, jusqu'à ce que la situation politique lui interdise de le faire. David May, quant à lui, suit notamment une femme de 80 ans qui, en posant pour être dessinée, retrouve son corps et le réhabilite pour elle-même. Ça s'appelle « Corps vivant », c'est ce qu'on va écouter tout d'abord. C'est signé David May et il navigue entre immersion documentaire et témoignage intime, explorant la diversité et la résilience, quelque part, des corps à travers les récits de quatre modèles, Rosangela, Jordan, Sabine et Duke.
Quand j'étais enfant, j'avais l'habitude de voir mes parents nus. Ma mère laissait toujours la porte de la salle de bain ouverte. Et quand mon père finissait sa douche, il n'avait pas honte de sortir tout nu. Je n'y voyais d'ailleurs aucun problème. Avec mes frères et sœurs, nous étions bien nus devant eux. Alors pourquoi pas eux, finalement ? Puis les choses ont changé, petit à petit, avec l'âge. À l'adolescence, une frontière s'est peu à peu dessinée entre nous. Il faut dire que mon corps se transformait. Des poils poussaient un peu partout. J'étais gêné et je ne voulais plus me montrer nu devant mes parents. Et de les voir nus était aussi devenu quelque chose de gênant, voire même d'insupportable. Nous nous sommes alors naturellement retranchés dans nos sphères intimes. La nudité est devenue quelque chose de privé, précieux, qu'on ne partage pas avec tout le monde. Et surtout pas avec ses parents. Mais ce faisant, j'ai aussi l'impression d'avoir intégré une certaine crainte à l'égard de la nudité et d'avoir intériorisé des complexes, de les dissimuler aux yeux des autres. Quand j'ai commencé à faire du dessin académique, j'ai été fasciné par les modèles vivants qui, eux, osaient se mettre à nu, entièrement, sans fard. Comment faisaient-ils pour être si confiants et détachés alors qu'ils dévoilaient ce qu'ils avaient de plus intime à mes yeux? Et surtout, pourquoi le faisaient-ils? Qu'est-ce que ça leur amenait dans le fond? J'ai senti le besoin d'aller à leur rencontre pour mieux comprendre.
Et parce que la sonnette est sur le côté, là, elle est devant. J'ai plus regardé le numéro. J'ai cru que je leur... Mais tu vois, quand voilà. C'est jour...
Ah non, c'est pas elle. 9, voilà. Là, on est au numéro 9.
Ouais, c'est bon. Attends, je crois que c'est ici. Hein. Je suis pas tout à fait sûre, j'ai pas fait attention.
Attends, on...
Désolée.
Voilà. Welcome.
Hein. Désolée. Attends, parce que j'ai un micro quelque part, là.
Ah mince. Alors,
Bienvenue.
Bonjour, merci. Désolé du retard.
Bonsoir.
On a loupé le tram et puis il n'arrivait pas à l'autre. Bonjour.
Voilà.
Ah oui, j'ai jamais vu autant de monde alors. Mais alors attends, parce que là je vais devoir me déshabiller.
Ouais.
Et donc il va falloir que je dois enlever le micro.
Ouais.
Quand j'ai rencontré pour la première fois Rosangela, j'ai été impressionné par elle. Rosangela a 80 ans et c'était la première fois de ma vie que je voyais une personne de son âge entièrement nue. Ça m'a vraiment bluffé. Comment pouvait-elle se sentir à ce point décontractée pour poser nue et exposer au regard des autres sa peau détendue, ses taches de vieillesse, ses rides? Toutes ces choses qu'on assimile à des défauts et qu'il ne faudrait soi-disant surtout pas montrer.
J'avais envie de faire une pause un peu hiératique, style pharaon. Et il me semble qu'ils ne mettent pas les mains sur les comme ça, devant. C'est ça, hein? Ah ouais, bon, alors ça, il faut l'aventier. Alors, voilà. Alors, j'ai des vagues idées, images de la chose, donc je ne sais plus exactement s'ils avaient bien, ils étaient comme ça ou comme ça. Et puis ils n'étaient pas à poil. Mais... J'ai fait un film, enfin j'ai participé à un petit film, une capsule vidéo, où j'étais, entre autres, j'avais été d'accord de danser nue. Et puis, c'est une fois qu'il a été présenté lors d'un petit festival, il y a une personne qui faisait du dessin d'académie qui est venue vers moi et qui m'a demandé si j'étais d'accord de poser. Et puis j'ai dit, bon, j'ai jamais fait, mais a priori, je vois pas pourquoi... Ça va. J'en sais rien, au fond. Mais ça peut être une expérience et j'adore faire des nouvelles expériences. Parce que je trouve que arrêter de faire des expériences à mon âge, c'est la mort, quoi. Donc voilà. Je me suis toujours trouvée plutôt moche. Pas intéressante, pas vraiment sexy, parce que je ressemblais pas du tout aux images publicitaires des années même 60, 70, 80. Mais après, j'ai tout remis ça en question avec le féminisme. C'était aussi, c'est arrêter de se raser, enfin d'enlever ses poils, des tas de choses. Et c'était se réapproprier son corps. Ça m'a beaucoup aidée. Disons, à l'heure actuelle, je suis encore mieux que dans les années 70, alors que mon corps est nettement plus vieux.
Mais justement, comment est-ce que tu penses que les gens dans la rue, dans la société, perçoivent ton corps ?
En tant que femme, et ça, c'est des femmes plus jeunes qui me le disent, hein, qui ont 50 ans, donc on a 20 ans de différence, hein, même 30, suivant si c'est au début de la cinquantaine ou à la fin, elles ont l'impression d'être invisibles. Parce que ce qui est vrai, à ça j'ai remarqué, c'est qu'il y a des messieurs très âgés, mais nettement plus âgés que moi, qui me regardent. Et puis le reste, les gens me sourient, mais je sens que c'est un sourire parce que j'ai une gueule sympa ou je sais pas, il y a quelque chose qui leur plaît, mais c'est pas du tout mon physique en soi. C'est la vieille dame qui a l'air bien dans ses baskets et puis voilà.
Ok, je pense que la pause est finie. C'est juste ou pas?
Non.
Ça commence au moins
30 secondes.
3 secondes.
30
secondes. Ah, 30 secondes. pas, ça dépose un petit peu plus longue. C'est-à-dire 10 minutes.
Alors, attends, qu'est-ce que je vais faire là?
Tu veux monter sinon sur les...
Ouais. Je me tourne toujours, j'ai toujours le dos ici. Enfin,
Vous avez un très joli dos.
Ouais, surtout qu'il a des dessins de dépigmentation qui sont pas mal. Hein. Ça, c'est l'âge.
Tu vas essayer de t'asseoir ici, peut-être comme ça c'est plus, ouais. Et ça change un petit peu la pose.
Ouais. Alors, moi, ce que je trouve très beau dans un corps qui vieillit, c'est on devient des arbres. Et puis, c'est quand on regarde des troncs d'arbres, les troncs d'arbres jeunes ou très jeunes, ils sont assez uniformes comme ça, assez lisses. Et puis, avec le vieillissement de l'arbre, l'écorce commence à prendre des tas de formes. Et puis, il y a des tas de choses qui poussent par-dessus l'écorce et tout. Bien, j'ai l'impression d'être un vieil arbre. Voilà, je trouve ça génial. Je me sens pas si vieille dans ma tête, mais je sais que mon corps est vieux. Et pour moi, la mort est présente tout le temps. Et elle est présente tout le temps, mais pas de manière du tout empêchante ou tragique ou comme ça. Mais on me propose des projets l'année prochaine, mais immédiatement, ou même pas l'année prochaine, mais cette année, je dis, ouais, si je suis là, je le fais. Mais pour moi, c'est automatique de dire ça. Enfin, c'est-à-dire, parce que j'en sais rien, moi, si je suis là l'année prochaine ou en décembre, si je suis là. Je me sens provisoire, mais plus en plus provisoire. Et donc, ben voilà, j'ai pris acte de la chose et la mort, pour moi, ben, je crois que je l'ai apprivoisée. Donc, elle est là, elle rôde, elle ne m'empêche pas de vivre. C'est plutôt confortable de se dire, ben voilà, je vais bientôt être une invisible parce que je parle avec mes invisibles. Ben, bientôt, ce sera moi qui serai une invisible. Quand ? Je dis bientôt, j'en sais rien quand, mais ça va venir. Et ça, j'en ai beaucoup plus conscience. Plus j'avance, plus... plus je suis présente à ça, voilà.
Mais est-ce que te montrer ton corps nu, que ce soit dans le cadre d'un cours de dessin académique ou sur scène, est-ce que c'est aussi une manière de dire je suis là, je suis en vie?
Oui, c'est la vie. En fait, c'est la vie jusqu'au bout. Alors pourquoi on ne montre pas la vie jusqu'au bout? Puis le corps, c'est la vie. Son corps, on n'existe pas.
Tu ne l'as pas aimé, c'est un tablier de glace.
Non.
Il est bleu, il est magnifique.
Oui, mais c'est mon tablier sale que j'ai utilisé.
Oh, le coussin, c'est joli, le coussin. C'est joli, joli ce coussin.
Oui, bah tu prends et puis tu peux prendre ce que tu veux là.
Mais c'est assez beau, hein, de poser avec ça. Tu trouves pas?
Ouais.
Ouais. Celui-là, il est peut-être pas mal aussi, hein. Attends, il faut chercher des contrastes. Regarde, ça contraste bien si je... C'est des différents.
À fond. T'as déjà pris des... Tu prends pas les arcs-en-ciel?
Tu voudrais?
Ouais.
Ok.
Si ça te fait plaisir, je le prends.
Bah ouais, c'est cool. Ça, c'est cool à dessiner, les trucs géométriques, peut-être.
Ouais.
Ok.
Je connais Sabine car nous partageons la même passion pour le dessin. On dessine côte à côte depuis plusieurs années au sein d'un collectif qui réunit une douzaine d'artistes. Sabine a aussi mis en place un atelier de dessin académique. Ils se réunissent une fois par mois à Lausanne. C'est elle qui contacte les modèles et qui organise les sessions. Mais un jour,
les choses ne se passent pas comme prévu.
Le dimanche matin, je m'apprêtais à partir quand j'ai reçu un SMS de cette personne qui organisait avec moi, me disant que la modèle posait un lapin, elle était malade. Et je me souviens de m'être dit dans ma tête, il ne faudra pas compter sur moi. Et on est arrivé sur place, toute l'équipe était là, et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire pendant ces 3 heures. Et on avait trouvé des solutions de se dessiner parmi, en restant habillés. Et puis, je sais pas ce qui m'a pris. Tout d'un coup, j'ai dit, c'est bon, je me lance. Et je crois qu'ils m'ont un peu regardé en me disant, mais t'es sûre ? J'ai dit, oui, c'est bon, je me lance. Je suis allée me déshabiller, j'ai mis un peignoir et je suis revenue. Donc je pense que ça me titillait déjà depuis un moment. Et puis là, je sais pas, j'ai trouvé l'énergie, la force de me dire, ben, ça y est, j'y vais, j'ai 45 ans, j'ai plus rien à perdre. Je crois qu'il y a cette question de l'âge où à un moment donné, tu... Tranquillement, avec l'âge, tu perçois ton corps autrement et puis il y a un peu plus cette urgence de vivre les choses. Puis voilà, puis tu te dis, mais j'ai rien à perdre.
J'ai mis mieux debout, assis.
C'est bien parce que tu fais.
Par contre, le minuteur, qui s'occupe du minuteur ?
Ah, ça peut être... Je peux faire un minuteur, si tu veux.
T'es là, Claire ?
Ouais.
Oh, cool.
Je me tire juste un coup.
Je sais pas si je vais tenir 10 minutes, ouais. Hein. Mais...
Je me dis, et puis bon, tout le monde dit en fait, doucement.
C'est parti.
C'est quand même un moment donné de ma vie où derrière, je laissais derrière moi. Mon envie d'avoir des enfants. Donc je savais que mon corps, il pouvait plus procréer et que, à quelque part, j'étais dans une phase d'acceptation et que je rentrais aussi dans une période de pré-ménopause. Et je pense que inconsciemment, il y a un truc qui se termine. En fait, j'y pense en te parlant. Je ne l'avais jamais conscientisé. Mais maintenant, je me dis que le moment où j'ai posé, ça correspond à cette période-là. Donc, c'est quand même des périodes où, à quelque part, je réfléchis en tout, mais il y a comme s'il y a des fonctionnalités de ton corps qui sont en train de disparaître. C'est des fonctionnalités où il y a quand même pas mal d'enjeux. Et je les avais plus, ces enjeux. En fait, c'est toujours véhiculé, ça reste quand même très présent dans la société que tu es femme le jour où tu as donné naissance à un enfant. Enfin, c'est encore... Alors que j'ai découvert qu'en fait, c'était pas ça d'être femme et que tu pouvais être mère autrement. Mais bien évidemment que dans mon parcours, ça a été quelque chose dont j'ai dû faire le deuil et qui a marqué mon existence. Donc, à quelque part, il y avait peut-être aussi cette envie de vivre d'autres choses avec mon corps qui soit plus dans la notion du plaisir, du défi, plutôt que d'une forme de souffrance.
Ça va ? Tu respires ? T'oublies pas de respirer ?
Ouais, ça va. C'est cool ou c'est pas cool?
Je
Je l'enlève ?
Non. Laisse-la.
Vous voulez que j'enlève, à part ça, vous le voulez, ce drapeau ?
Oui.
Ah, ça, c'est bien.
C'est juste
la pensée. Ok.
Et en fait, je me suis rendu compte que déjà, ce que j'apprécie, c'est que c'est un moment assez méditatif. C'est un moment donné, c'est un moment où tu joues avec ton corps, au même titre qu'un danseur joue avec son corps. Enfin, je ne sais pas s'il joue, mais ton corps est un espace de jeu. Et moi, j'adore avec mon corps faire des torsions. J'aime aussi beaucoup jouer avec mes mains. Mais parce qu'aussi, je pense que j'aime dessiner les mains. Mais vraiment affiner mes poses juste dans les moindres détails. Pas seulement me mettre, ok, assise, mais comment je vais me mettre assise et puis jusqu'où mon petit doigt va se tenir dans cette pose. Et de me raconter aussi des histoires. Et je sais même qu'une fois, quand j'ai posé, j'avais même pris un rouleau de papier de toilette. Et puis, je m'étais enroulé ce papier de toilette autour de la tête. Et je m'en souviens de ce moment-là où j'étais, où quelqu'un m'avait dit, mais on a presque l'impression que tu es en train de nous faire une performance. Tu es en train de performer. Et en fait, j'ai un souvenir de cette fois-là où j'étais partie dans mes délires. J'avais joué avec une chaise, je me mettais sous la chaise, mais le derrière en l'air. J'avais fait plein de trucs un peu barge. Puis j'avais trouvé ça... Je vais trouver ça super drôle. Et voilà, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un côté très marrant, très sympa, très libérateur. Et puis, il y a aussi un dialogue, parce que tu dialogues avec les gens pour qui tu poses. Moi, je leur demande souvent, mais qu'est-ce que vous aimeriez, là ? Et je pense qu'il y a aussi ce désir de plaire. Je sais que dans mes poses, j'ai envie de satisfaire les autres.
Et est-ce que tu dirais que poser, ça a changé ton regard sur ton propre corps ?
Oui, je crois quand même. En tout cas, ça m'aide à changer mon regard sur un corps qui vieillit. Parce qu'on vieillit tous. Et il y a déjà... cette conscience que notre corps n'est qu'un amas de cellules et pas plus que ça, en fait. Et chez certaines personnes, ça fonctionne bien, chez d'autres un peu moins bien, chez d'autres très mal. Puis en fait, quand t'as des soucis de santé, ton corps, il est un peu résumé à ça. En tout cas, quand tu vas chez les médecins. En fait, tu te dis, ben... Ce corps, c'est juste ça, quoi. C'est un amas de cellules qui, certains jours, t'accompagne bien, puis qui, certains jours, te fait vraiment souffrir. Et puis là-dedans, qu'est-ce que je peux en faire de ce corps de positif ? Et oui, je pense que de poser fait partie des choses positives que je peux vivre avec mon corps. Et que mon corps est à même de supporter. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, de vivre des moments beaux avec ce corps qui m'est donné de traverser la vie sur Terre, en fait.
Si des fois je prends des photos de l'atelier, ça te dérange de prendre des photos ? Je t'avais demandé déjà ?
Ouais.
Oui. Et puis, c'est la réponse non. Tu n'es pas obligé de dire oui.
Je sais pas trop. Je sais pas.
Ils sont pas obligés. T'inquiète pas. Quand je suis posé, enfin, quand je pose du là, Évidemment, il y a...
Peut-être si je viens une troisième fois ici, peut-être la prochaine fois, je dirai oui. Là, je... pour aujourd'hui, pas, mais peut-être une prochaine fois.
Okay. Oui, bien sûr.
Donc, là, là, c'est non, déjà... là, c'est la deuxième fois, je suis déjà plus à l'aise que la première.
Ouais, c'est ici, super. Ça. Je peux comprendre.
Donc, tu peux faire combien de temps, Jordan? 5 minutes? Combien de temps tu veux poser? 5 minutes?
Pour la première, ouais, 5 minutes.
5 minutes, ok. Bah, on va faire des 5 minutes avec Jordan. Et puis, avec Agnès, tu veux rester quoi? 15 minutes? 15 minutes, ok. Bah, c'est moi qui compte, donc ça va sonner 15 minutes. Démarrer. Et puis, 5. Voilà. Donc 5 et 15. Ok,
ça marche.
Voilà, c'est parti.
Quand j'ai contacté Raoul, qui lui aussi organise des ateliers de dessin académique, je lui ai demandé s'il avait en tête un modèle qui l'avait particulièrement frappé. Il a tout de suite pensé à Jordan, qui a 24 ans et qui se définit comme garçon transgenre. Les questions que j'avais jusqu'ici ont alors pris une autre dimension. Qu'est-ce que ça change de poser nu quand on est une personne trans? Comment offrir son corps au regard des autres quand ce corps a longtemps été nié, caché, transformé ou mal regardé?
J'avais pas du tout prémédité la chose, en fait. Après, j'avais déjà eu une discussion sur le fait de poser nu avec une personne que je connais très bien depuis que j'ai 14 ans, du coup, qui est... Dans mon entourage, qui est plus âgée que moi, du coup, qui est posée nue quand elle était jeune à l'école d'art à la Chaux-de-Fonds. Et puis, voilà, quoi, du coup, j'ai repensé un peu à cette discussion, tout ça, puis je me suis dit, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai tenté l'expérience. Et oui, du coup, je me suis fait opérer du torse en 2022, du coup, ça faisait une année. Et peut-être que voilà, à ce moment-là, je me suis dit peut-être que mon corps, il est... Enfin, c'était peut-être une manière aussi de... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, peut-être pas de faire valider, mais de continuer en fait, le fait que mon corps, voilà, il est un peu... Enfin, je ne sais pas si je peux dire tout neuf, mais de continuer le processus de se dire... je suis bien avec mon corps et tout ça, et puis je peux faire des choses variées quoi, avec et comme tout le monde. La première fois, ça fait quand même un petit peu. Les fois suivantes aussi, mais moins que la première fois, mais ça fait quand même battre le cœur un peu vite. Ça fait un petit coup de stress. Enfin, de stress, c'est pas du mauvais stress, mais ça fait des palpitations quand même avant de se déshabiller parce que c'est pas habituel, quoi, d'être à poil nu devant un groupe de personnes, quoi. C'est quand même, se dévoiler en entier, quoi. C'est, quand on dit l'expression « se mettre à poil », du coup, là, c'est, c'est se mettre à poil en entier, quoi. Donc,
est-ce que tu peux un peu me parler du regard que tu portais sur ton corps quand tu étais enfant et jusqu'à l'adolescence?
J'ai essayé, on va dire, m'accoutumer, on va dire, de me dire « Ah oui, c'est bien !» Mais en fait, ça me plaisait pas, quoi. Et surtout, le début que j'ai eu mes règles, j'étais vraiment dans le déni complet. Pour moi, c'était pas là. Et je faisais vraiment comme s'il n'y avait pas, de règles. Et surtout, moi, je pensais en fait que ça, au début, quand j'avais 12 ans, je croyais que ça arrivait une seule fois dans la vie et qu'après, c'était fini. Et après, quand j'en ai parlé une fois à ma cousine, et je lui ai dit, bah, du coup, ouais, je les ai eus. Et après, elle m'a dit, ah, bah, tu verras, maintenant, ça sera comme ça toute ta vie. Et là, à ce moment-là, j'étais là, ah non, c'est pas possible. Et je me suis dit, mais non, ça va pas, ça peut pas continuer comme ça. Et ouais, ça m'a pas fait plaisir du tout. Ça m'a pas plu du tout. Et bon, après, au bout de quand même quelques mois, j'ai quand même essayé de les prendre en compte, on va dire, ouais. Au niveau des protections, tout ça, voilà, pour pas avoir du sang partout. Parce qu'au début, c'était un peu ça, j'essayais de cacher, ouais. Et du coup, là, bah, j'ai quand même trouvé des protections, mais légères, on va dire. Je voulais quelque chose qui soit hyper léger, pratique et qui ne m'empêche pas de bouger, de faire du sport, de faire du foot. Ouais, ça a été un peu comme ça, du coup, pendant toute l'adolescence. C'était essayer de conjuguer un peu les choses, quoi, pour que ça soit... Pour que ça soit pas désagréable physiquement, quand même, ouais, dans le but de, voilà, de rester masculin, quoi. Et après, ouais, plus ça avançait, plus ça allait, plus je disais, bah, que, ouais, voilà, que je savais qu'à un moment donné, que faudra que je fasse ma transition, quoi, parce que donc là j'avais 17, du coup, j'avais presque 18 ans. Et là, j'ai commencé du coup les démarches sérieusement, quoi, du coup, pour commencer les hormones et tout ça. Donc, j'avais envie d'avoir des épaules plus larges, tout ça. Enfin, pour moi, ça allait pas dans le bon sens, quoi. C'était, quand je voyais les autres, je me disais, mais ah, qui commençaient à muer et tout ça, je me disais, mais moi aussi, je veux muer. Et donc j'attendais, en fait, du coup, les changements, mais les changements, du coup, d'un garçon, quoi. J'attendais pas... Enfin, je savais que ça allait pas venir comme ça, tout seul, quoi, mais je voulais ça. Et puis, j'acceptais pas du tout, quoi, que ça aille pas dans le bon sens. C'est vrai que je me regardais souvent dans le miroir de la salle de bain chez moi et je me disais, mais en fait, j'essaie de faire que mes épaules, elles soient plus larges. Enfin, c'était vraiment toutes des choses comme ça... Ouais, c'était quand même assez pénible. Mais après, voilà, ben ma voix, ouais, elle a mué très vite, quoi. Assez rapidement, il y a eu assez vite des changements physiques. Donc, il y a tout qui change. Enfin, voilà, le corps, il se masculinise vraiment, quoi. Donc, j'ai plus de poils, quoi, du coup, sur le torse, il y a tout qui... Bah, c'est vraiment comme une puberté, quoi. C'est... À part, les parties, du coup, intimes, quoi, que j'ai pas, du coup, d'un mec cisgenre, bah, c'est... Sinon, le reste, ça... Ouais, les gens, quand ils me voient de l'extérieur, ils ont pas de doute du tout, quoi.
C'est pourquoi ça?
Ça, c'est pour en hiver, c'est très froid. Donc,
Ah oui. Mais si là, ça va, il fait chaud.
Oui, il fait chaud. Donc, c'est l'habitude, en fait.
OK. Il faut choisir... En fait, pour les poses longues, il faut choisir une position confortable parce que sinon... Sinon, ça fait mal, quoi.
Bon, on peut faire 15 ou 20, comme vous voulez. Il n'y a personne qui fait l'huile, donc on ne met pas en air, mais...
On commence par quoi? 15 minutes?
Oui, on va rester sur 15, non? Et puis avec Agnès, on va faire... reste 5.
Comme vous voulez.
Ouais. Donc voilà. OK. Donc 5 et 15, on reste la même chose.
J'ai l'impression d'être un peu trop fin des fois. Enfin, j'essaie maintenant de faire plus de choses pour prendre encore un peu plus des épaules et puis avoir les bras un peu plus mastoc. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il faut soit être grand, soit être musclé, soit être grand et musclé. En fait, il faut qu'il y ait en fait un des deux. Et c'est un peu ce que j'avais pris conscience maintenant. Et en fait, là, je me dis, en fait, j'ai envie de faire un peu plus des choses pour que mes bras ils soient plus épais. En fait, je sais pas, pour que visuellement, c'est peut-être un peu stupide, mais pour que les personnes, en fait, voilà, se disent, ben, OK, il est comme ça. Et j'ai l'impression que voilà, dès qu'un gars il est peut-être un peu plus fin comme ça, ça, je sais pas, on le voit un peu peut-être différemment et tout. Puis il y en a, ils ont besoin de montrer vraiment d'être exactement comme les mecs cisgenres, tout ça. Moi, j'ai pas forcément besoin de ça, d'être dans une espèce d'extrême, mais j'ai pas envie en fait de passer. Je sais pas si c'est en lien voilà avec tout mon parcours. J'ai été aussi harcelé à l'école, donc je pense qu'il y a quand même ce truc qui joue aussi. Quand j'étais pendant 4 ans et demi, j'étais harcelé, donc j'ai besoin de voilà de montrer que je suis je sais pas comment dire. J'ai besoin de temps en temps de réaffirmer certains aspects et de dire en fait voilà, je suis pas une crevette, je suis pas faible, je suis pas ci et je suis pas ça, et voilà. Si j'étais sur une île déserte, en fait, je m'en foutrais, mais c'est parce qu'il y a d'autres gens autour et puis parce qu'il y a ces trucs de société, machin. Et c'est ça qui fait un peu ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui provoque ce truc chez moi, quoi. Et je pense pour beaucoup de personnes transgenres, enfin, le regard des autres, il compte quand même pas mal, quoi, pour être validé. Surtout l'entourage, mais aussi les personnes de l'extérieur, quoi. Quand on se ressent d'une façon, on n'a pas envie que les autres gens autour nous voient d'une autre façon, quoi. Je pense.
Mais alors justement, quand tu poses, tu te mets à nu, et là, du coup, t'oses te montrer tel que tu es dans ton entièreté.
Ouais. Après, c'est aussi, je pense que pour les gens du coup qui viennent dessiner, peut-être ceux qui n'ont jamais dessiné de personnes transgenres, ça montre une variété, enfin une diversité du coup dans les corps qui existent, quoi. C'est un corps qui fait partie du paysage des corps et que ça existe. Donc voilà.
Décalé, 15h30.
15h30. On a fini là?
La première partie, oui.
Ah, ok, je me disais, ouais.
Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a changement de modèle et puis pas turiste.
Ouais. Mais du coup, là, on fait 20 minutes de pause, c'est ça?
15.
Oui.
Ça, on se rattrape.
Je suis presque endormi. C'est une position tellement.
Ça s'est remarqué?
Non.
Est la toute première modèle vivante que j'ai rencontrée. À vrai dire, c'est elle qui a été le véritable déclencheur de ce podcast. Elle avait 22 ans à l'époque et posait depuis qu'elle en avait 19. Pour elle, cela semblait aller de soi, comme une évidence. Une manière naturelle d'habiter son corps, de le montrer sans détour et sans détourner le regard. Je me souviens avoir été frappé par cette assurance tranquille, presque désarmante. À son âge, j'étais à milieu d'une telle aisance. La nudité, pour moi, était encore chargée d'embarras, de retenue, de silence. Il y avait des murs, des verrous, des choses qu'on ne disait pas, qu'on ne montrait pas. Avec Duke, ces barrières semblaient n'avoir jamais existé. Sa candeur, sa franchise, cette manière très directe qu'elle avait de parler de sa pratique sans la justifier, m'a donné envie d'en savoir plus. Pas seulement sur elle, mais sur ce que cela dit de nous, de notre rapport au corps, au regard, à la vulnérabilité.
Bien, on va commencer.
Très bien.
Et comme d'habitude, là, on va faire 10 minutes au début, comme d'habitude, deux fois 10 minutes, et puis deux fois un quart d'heure, et puis après 20 minutes deux fois. Ça va ?
Je peux faire des pauses un peu naturelles ?
Je sais pas. Tu veux.
Ok.
Toi qui sais. Si tu peux autre chose, là, si tu peux.
Non, debout, c'est juste que je me dis si je fais vraiment des pauses très. Ok, bah je reste comme ça.
Très bien.
C'était ça ma question.
Très bien.
Parce que la dernière fois, j'ai fait des poses qui étaient très comme sur des peintures, sur des. Vous
avez tout à l'heure, c'est magnifique, c'est comme tragédie.
Oui, ah, cool. Bah, c'est ce que j'essayais de faire. Ouais. C'est très bien.
Bon, maintenant.
J'ai cherché des ateliers. J'avais le temps, donc je cherchais tout ça. Je ne savais pas comment faire. On ne sait pas comment aller dans des ateliers ou autre, comment être modèle. Et là, par le biais de mon père, j'ai le contact d'un modèle qu'il a rencontré, avec qui je discute. Il m'a mis dans un groupe. Et là, il m'envoie un message pour me dire que sa copine, elle ne peut pas poser à l'atelier, malade ou je ne sais plus quoi. Et il me dit, tu veux y aller ? J'ai dit, oui. Il m'a dit, j'ai dit que tu posais déjà, donc dis que tu as déjà posé. Donc, gros stress ! J'avais cette pression de, oui, je suis modèle, parfaitement, ce n'est pas ma première fois. Tout à fait. Du coup, le jour arrive, j'y vais, l'atelier est très sympa, il y a de la musique, il n'y a que des femmes. Et j'avais déjà un peignoir que j'aimais beaucoup, que j'emmène. Comme ça, on peut s'asseoir, etc. On est à l'aise à se coucher et s'asseoir. Et à se rhabiller pendant les pauses. Et j'étais tellement concentrée que je bougeais pas d'un millimètre et que je clignais pas des yeux. J'étais vraiment très, très, très concentrée, très focus et absolument pas mal à l'aise de... J'étais même très à l'aise, en fait, à le faire. C'était vraiment agréable de pouvoir ne pas être jugée, quoi, pour sa nudité. Quand j'ai retiré mon peignoir, il est tombé. Et j'étais là, genre... Oh, waouh ! Et je me sentais bien ! Comme un sentiment de grandeur, limite.
Est-ce que tu as toujours aimé ton corps ?
Non. Alors ça, c'est clair et net, non. Mais j'ai refusé de pas... Ça me révulsait de pas aimer mon corps. Ça m'énervait trop. J'aime pas ça. Ne me faire du mal à moi-même, je suis la seule personne ici à pouvoir m'aimer. Enfin, je suis mon propre gardien. Et étant un enfant qui a subi des maltraitances, en plus... par rapport au corps, des maltraitances physiques aussi, des agressions physiques, ce qui du coup m'est totalement dévié ma perception du corps, qui m'a fait naître en fait avec cette perception que je suis un objet et un pantin, parce que j'étais tellement jeune que c'est pas comme si j'avais déjà une notion du corps qu'on a modifié. Non. Moi, je suis vraiment née. Quand t'as 4 piges, t'as aucune idée de tout ça et on te l'impose. On vient là et on te fout une énorme gifle. On vient te faire comprendre que t'es une chose. Et tu le comprends pas quand t'es jeune. Mais moi, je me rappelle avoir dû m'auto-sauver encore. À 8 ans, comprendre ce qui s'est passé, me rassurer. J'ai eu des mots d'adulte envers moi-même à 8 ans. J'ai dû me dire, c'est pas grave, c'est pas ta faute. Je me rappelle très bien de tout ça. Quand j'ai fait ma propre thérapie, ça a duré des mois. Parce que j'ai développé une hypersexualisation à cause de ces abus. Et j'ai dû comprendre que c'était pas normal. Et je devais me dire, c'est ok. Tu peux arrêter de faire ça, tu peux arrêter de ressentir ça. C'est pas ta faute. Se dire, c'est pas ta faute. À 8 ans, c'est chaud quand même. Et en fait, on m'a imposé une sensation corporelle. Je comprenais toujours pas ce que c'était d'avoir un corps. Et à l'adolescence, là, je comprends. Oh, mon corps, il change. Et là, j'ai pris conscience de mon propre corps. Et bah, du coup, c'était de la merde. C'est de la merde. Et j'ai eu mutilé ma poitrine tellement je la haïssais. Et puis là, maintenant, en essayant d'être doux envers moi-même le plus possible et en ayant des partenaires, vraiment, c'est quasiment tout le travail. C'est vraiment des partenaires, en plus des hommes. Parce que si c'était une femme, c'était pas pareil. Entre femmes, on aime nos corps, quoi. On vit la même chose, du coup, il n'y a pas de jugement particulier. Mais ouais, avoir des partenaires hommes qui me disent « Oui, t'as les seins qui tombent et oui, ils sont beaux. » Mais vraiment, tes seins qui tombent sont jolis, sont beaux. Ça fait vraiment trop du bien. Genre vraiment, c'est ce qu'il me fallait en fait.
Merci. On fait une petite pause là.
Yes, on fait la pause.
Là, c'est le moment où je vois les dessins des gens. Et où je discute. Parce que j'aime bien.
Ah, d'accord. Ah. C'est là aussi le travail.
C'est là où je
mets
mes ateliers.
Yes.
Ouais. Bien, je trouve que c'est pas facile tes poses aujourd'hui.
Ah ouais.
Pour les débutants, non.
Sérieux.
Je trouve
que, ouais. Désolée. C'est pas grave. Ça, genre. Parce que comme ça change suivant les ateliers. En fait, vraiment au dernier atelier, c'était la semaine passée, je crois. La fille, elle adore quand je fais ce genre de pose. Et où c'est vraiment comme j'avais et elle a pas trop de peine, donc du coup
Non mais les beaux se sent bien, ça veut nous habituer, mais c'est frustrant de pas y arriver, je veux dire.
Mais je me rends pas compte.
Une belle pose et puis après tu
j'en referai plein, t'inquiète.
Bah, si
t'auras tout le temps de t'améliorer, je serai toujours là.
Elle a dit dans 2 ans ce sera bon.
Deux ans, les vannes, ça fait un an qui me dessine, hein. Ça fait plus d'un an même qui me dessine les vannes. Ça doit faire un an et demi, je crois, maintenant. Ouais. J'adore voir les dessins de moi après. Il y a tellement de styles différents. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me voir et de ne pas être un corps parfait. De ne pas être sous mon meilleur angle. J'adore quand on me dessine ma poitrine qui tombe. Parfois, on ne le fait pas et ça m'énerve. Ça m'énerve, ça. Même mon copain, quand il voit les dessins, il fait t'as pas ces seins-là. Ils sont trop ronds. Je suis là genre, ouais, je sais, lui, il m'énerve, il me fait mes seins trop ronds, ça m'énerve. J'adore qu'il y ait mes hanches qui sont pas larges. J'adore qu'on aperçoit mes os. Pour une fois, je trouve mes os beaux. Moi, je déteste, on voit beaucoup mon squelette. Pas parce que je suis maigre du tout. C'est juste comme ça. J'ai une ossature qui fait que sur certaines zones, ça ressort plus. Et pour moi, c'était apparenté à la maigreur, etc. J'aimais pas la mauvaise santé. Et là, c'était tellement beau. Et une fille, elle a fait tout. Genre, elle voyait vraiment quasiment toutes mes côtes. Elle les a toutes dessinées et c'était magnifique. Et j'ai adoré. J'adore. Ça aide à aimer, pas des complexes, mais des. Parce qu'un complexe, c'est un grand mot quand même. Des détails que je n'apprécie pas forcément.
Et le fait de poser, du coup, nu devant des autres, est-ce que c'est aussi une forme de. D'aboutissement de quelque chose
ouais. C'est vraiment m'apaiser et vivre une nudité non malsaine. C'est mettre de la douceur et de l'innocence à nouveau, en fait, dans la nudité. Quelque chose qu'on m'a arraché, quoi. Et être regardée, complimentée, vraiment, sur son corps, de manière non sexualisée, c'est incroyable. Quand j'entends les dessinateurs dire « Putain, cette courbe, elle est géniale. » Parce qu'elle est génialement dessinable, enfin... Et que oh, mais ça fait trop du bien, quoi. Qu'on me dise pas « Ah, t'es juste bonne. Tes poses, elles sont belles. » Et pas « T'as un beau corps. Tu fais de très belles poses. » Et c'est incroyable. C'est « Ah !» En tant que femme, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. C'est ce qui me correspondait pour guérir. Ouais. C'est vraiment guérir, en fait, de faire ça.
Mes rencontres avec Rosangela, Sabine, Jordan et Duke m'ont amené à me demander où j'en étais avec mon propre corps. J'ai finalement très peu d'occasion d'être en lien avec lui. Trop peu. Je sens un manque, une frustration. J'aimerais lui accorder plus de temps. Je suis un corps aussi, pas qu'une tête qui réfléchit. Alors, peut-être qu'il est temps de lui redonner un peu de place dans ma vie, de le challenger aussi, de le rendre utile, de le regarder, de le montrer, de le faire exister. Moi aussi, je veux être un corps vivant qui revendique, désire, vit.
Bon, le modèle du jour, je vous le présente. Certains vous connaissez déjà, mais c'est David.
Bonjour.
Qui pose pour la première fois dans notre groupe et pour la première fois tout court, sauf erreur.
Ouais, ouais, c'est vraiment la première fois.
Alors, je vais expliquer un petit peu comment on fonctionnait et puis il ben, faudra juste l'aiguiller sur les poses de combien de temps on veut faire. Et si tu n'arrives pas, si tu t'embarques dans une pose de 10 minutes et que tu vois que tu n'arrives pas à la tenir au niveau musculaire, t'hésite pas à dire que c'est trop long et on arrête et il n'y a aucun problème.
D'accord.
Donc voilà, est-ce que tu as toutes les informations dont tu as besoin pour te sentir à l'aise?
Bah, il va falloir juste que je me lance, quoi.
Eh ben ouais, c'est exactement ça. Mais tu verras, c'est juste le saut qui est un peu. Ça fait juste un peu, t'es là. Bon, puis après non. C'est parti, puis après t'es.
Bon, allez.
Ok. Corps vivant, une création sonore de David May avec Rosangela Gramoni, Sabine Berchi, Jordan Alessio Volpato et Duke Constantin. Une production de Tutu Productions, soutenue par le département de la culture et de la transition numérique de la ville de Genève. Production Véronique Maréchal, mixage Jérôme Coindet. Un grand merci à Rosangela, Sabine, Jordan et Duke pour leur confiance et leur témoignage. Merci également à Raoul Acevedo, Carmen Bayonnet, Yukirilo Hirokawa, Sabine Berchi et Clotilde Dutriche qui ont gentiment ouvert les portes de leur atelier de dessin académique. Merci enfin à Arthur Brugger, Maria Villebrand, Simona Ferrar, Laure Gabu et Mélina Brédé pour leur soutien et leur écoute attentive.